Les maudits sont sans importance. Les mots sont sans importance.
Bonjour, la diseuse de mots. Aujourd'hui, je vous lis un premier extrait du roman de Kim Thuy, Vie. Il s'agit d'un roman aussi bouleversant qu'énergisant, qui rend magnifiquement hommage à la force discrète des femmes. J'avais 8 ans quand la maison a été plongée dans le silence. Sous le ventilateur d'appoint apposé au mur blanc ivoire de la salle à manger, un grand carton rigide rouge vif portait un bloc de 365 feuilles. Chaque feuille indiquait l'année, le mois, le jour de la semaine et 2 dates, une selon le calendrier solaire et une autre selon le calendrier lunaire. Dès que j'étais capable de grimper sur une chaise, on m'a réservé le plaisir d'enlever une page à mon réveil. J'étais la gardienne du temps. Ce privilège m'a été retiré quand mes frères aînés, Long et Locke, ont eu 17 ans. À partir de ce jour d'anniversaire, que nous n'avons pas célébré, ma mère pleurait chaque matin devant ce calendrier. J'avais l'impression qu'elle se déchirait en même temps qu'elle arrachait la feuille du jour. Le tic-tac de l'horloge, qui d'habitude nous endormait au moment de la sieste de l'après-midi, sonnait soudainement comme celui d'une bombe à retardement. J'étais la petite dernière, la seule sœur de mes 3 grands frères, celle que tout le monde protégeait comme les précieuses bouteilles de parfum derrière des portes vitrées. Même si j'étais tenue à l'écart des préoccupations de la famille, en raison de mon âge, je savais que les 2 plus vieux devraient partir sur un champ de bataille le jour de leurs 18 ans. Qu'ils soient envoyés au Cambodge à combattre Pol Pot ou à la frontière avec la Chine, les 2 destinations leur réservaient le même sort, la même mort. Mon grand-père paternel était diplômé de la faculté de droit de l'université de Hanoï à titre d'indigène. La France s'occupait de l'instruction de ses sujets, mais n'attribuait pas la même valeur aux diplômes décernés dans ses colonies. Elle avait peut-être raison, puisque les réalités de la vie en Indochine n'avaient rien en commun avec celles de la France. En revanche, les exigences scolaires et les questions aux examens étaient les mêmes. Mon grand-père nous répétait souvent qu'après l'étape des examens écrits, il y avait une série d'oraux pour obtenir le baccalauréat. Pour le cours de français, il devait traduire devant ses professeurs un poème vietnamien en français et un autre dans le sens inverse. Les problèmes de mathématiques devaient également être résolus oralement. Le test ultime était de faire face à l'hostilité de ceux qui décideraient de son avenir sans perdre ses moyens. L'intransigeance des professeurs n'étonnait pas les étudiants, puisque la hiérarchie sociale plaçait les intellectuels au sommet de la pyramide. Ils y siégeaient en sages et portaient le titre de professeur toute leur vie auprès de leurs élèves. Il était impensable de remettre en question leurs paroles, puisqu'ils détenaient la vérité universelle. C'est pourquoi mon grand-père n'avait jamais protesté lorsque ses enseignants lui donnaient un nom français. Par manque de connaissances ou par acte de résistance, ses parents ne lui en avaient pas donné. Alors dans les classes, d'une année à l'autre, d'un professeur à l'autre, il portait un nouveau nom. Henri Le Van Hahn, Philippe Le Van Hahn, Pascal Le Van Hahn. De tous ces noms, il avait conservé Antoine et transformé le Le Van Hahn en nom de famille. De retour à Saïgon, son diplôme en main, mon grand-père paternel est devenu un juge respecté et un richissime propriétaire foncier. Il exprimait sa fierté d'avoir créé à la fois un empire et une réputation enviable en répétant son nom pour chacun de ses enfants. Thérèse Le Van Hahn, Jeanne Le Van Hahn, Marie Le Van Hahn et mon père, Jean Le Van Hahn. À l'inverse de moi, mon père était le seul garçon dans une famille qui comptait 6 filles. Comme moi, mon père est arrivé le dernier, au moment où plus personne n'osait espérer un porte-étendard. Sa naissance a transformé la vie de ma grand-mère, qui jusqu'alors avait subi quotidiennement les commentaires des mauvaises langues sur son incapacité à engendrer un héritier. Elle avait été déchirée entre le désir d'être l'unique femme de son mari et le devoir de choisir une seconde épouse. Heureusement pour elle, son mari était de ceux qui avaient adopté le modèle monogame français. Ou peut-être était-il tout simplement amoureux de ma grand-mère, une femme connue dans toute la Cochinchine pour sa beauté gracieuse et sa volupté. Ma grand-mère paternelle a croisé mon grand-père un matin, très tôt, au marché flottant de Caïbé, un district moitié terre, moitié eau, sur un des bras du Mékong. Chaque jour, depuis 1732, les marchands transportent leurs récoltes de fruits et de légumes jusqu'à cette partie du delta pour les vendre aux grossistes. De loin, la couleur du bois se mêlant au brun de l'eau argileuse donne l'impression que les melons, les ananas, les pomelos, les choux, les courges flottent par eux-mêmes jusqu'aux hommes qui les attendent dès l'aube sur le quai pour les attraper au vol. Encore aujourd'hui, ils transfèrent les fruits et légumes manuellement, comme si ces récoltes leur étaient confiées et non vendues. Ma grand-mère, debout sur le quai du traversier, était hypnotisée par ces gestes répétitifs et synchronisés quand mon grand-père l'a aperçue. Il a d'abord été ébloui par le soleil, avant d'être étourdi par cette jeune fille aux courbes particulièrement prononcées, accentuées par les plis de la robe vietnamienne qui ne tolère aucun excès dans les gestes et surtout aucune indélicatesse dans les intentions. Les boutons pression longeant le flanc droit gardent la robe fermée sans jamais vraiment l'attacher. Ainsi, un seul mouvement ample ou brusque entraîne l'ouverture complète de la tunique. Pour cette raison, les écolières devaient porter un caraco en dessous pour éviter les indécences accidentelles. Par contre, rien ne peut empêcher les deux longs pans de la robe de répondre au souffle du vent et d'attraper les cœurs qui résistent mal au pouvoir de la beauté. Mon grand-père est tombé dans ce piège. Aveuglé par le mouvement doux et erratique des ailes de sa robe, il a déclaré à son collègue qu'il ne repartirait pas de Caïbé sans cette femme. Il lui a fallu humilier une autre jeune fille qui lui avait été promise et s'aliéner les aînés de la famille avant de pouvoir toucher les mains de ma grand-mère. Certains croyaient qu'il était amoureux de ses yeux en amande, aux longs cils. D'autres, de ses lèvres pulpeuses. Et plusieurs étaient convaincus qu'il avait été séduit par ses hanches pleines. Personne n'avait remarqué les doigts effilés serrant un cahier de notes contre sa poitrine, sauf mon grand-père, qui les a décrits pendant des décennies. Il a continué à les évoquer longtemps après que le vieillissement de la peau eut transformé ses doigts fuselés et lisses en un mythe fabuleux ou tout au plus un conte amoureux. L'école d'art indigène de Bien Hoa était au sommet de sa renommée, quand mes grands-parents l'ont visité pour acheter la 7e pièce de céramique destinée à leur 7e enfant. Ils hésitaient entre le cuivre de bleu moucheté et la glaçure céladon lorsque ma grand-mère a perdu les os. Après quelques poussées, elle a donné naissance à mon père. Comme un miracle, mon grand-père a accueilli 15 jours plus tôt que prévu un garçon, son unique garçon. Mon père a été porté par les mains aux doigts de fée de ma grand-mère, et aussi par celles de ses 6 sœurs aînées, et celles des 26 nourrices, cuisinières, bonnes, sans compter celles des 600 femmes qui ont reçu à bras ouverts et avec adoration son visage bien dessiné, ses épaules larges, ses jambes d'athlète et son sourire séducteur. Il aurait pu étudier les sciences ou le droit comme ses sœurs, mais l'affection des unes et l'amour des autres le détournaient de ses livres et amputaient ainsi son organe du désir. Comment désirer quand tout est comblé d'avance? Il n'avait pas encore ouvert les yeux que déjà la tétine d'une bouteille de lait tiède effleurait ses lèvres jusqu'à l'âge de 5 ou 6 ans. Personne n'osait le réveiller pour l'école puisque sa mère interdisait à quiconque d'interrompre ses rêves. Sa nourrice l'accompagnait sur les bancs de sa classe, où elle apprit à lire en même temps que lui. Durant ses cours de piano, les bonnes se disputaient pour pouvoir éventer sa nuque et rafraîchir l'air ambiant avec le bois de santal de l'éventail. Il amadouait son professeur juste en accompagnant de sa voix les notes de l'échauffement. Plus les années passaient, plus l'attroupement devant la maison grandissait pour écouter les mélodies qu'il créait sur le moment, sans la moindre ambition d'immortaliser quoi que ce soit. L'effort l'ennuyait, de même que les mains qui épongeaient sans cesse les gouttes de sueur sur son nez. Toutefois, il n'osait refuser aucune de ses attentions parce que, dans son cas, recevoir signifiait donner. Mon père a ainsi grandi dans l'allégresse et aussi dans le vide de l'apesanteur. Son temps ne se comptait pas en heures, mais plutôt au nombre de déplacements des pions sur le jeu d'échecs chinois, ou au nombre de punitions que sa mère infligeait aux bonnes qui laissaient échapper un bol ou un balai pendant ses siestes, ou au nombre de lettres d'amour glissées anonymement dans la boîte aux lettres. Les fruits de l'empire, le Van Han, lui auraient facilement permis de vivre en marge de la société. Heureusement, la vie aime surprendre et changer constamment l'ordre des choses, afin de donner à tous une occasion de suivre ses mouvements, d'être à l'intérieur d'elle. Mon père avait à peine 20 ans quand la réforme agraire a divisé par 2 les rentes et les propriétés terriennes de l'empire Le Van Han. Pour la première fois, les agriculteurs avaient la chance de posséder les terres qu'ils labouraient. Parallèlement à cette nouvelle politique, mon grand-père a subi un infarctus qui l'a également diminué de moitié. Sans ces secousses, mon père n'aurait probablement jamais épousé ma mère. Chanson, toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me dis tout, oh toi, que nous dansions ensemble, toi qui me parlais d'elle, d'elle qui te chantait. Toi qui me parlais d'elle, de son nom oublié, de son corps, de mon corps, de cet amour-là, de cet amour mort. Chanson de ma terre lointaine, toi qui parleras d'elle, maintenant disparue. Vous pouvez me retrouver tous les mardis à 9h45 sur Jet FM ou en podcast. Laissez-moi vos impressions, vos commentaires, peut-être vos suggestions aussi, pourquoi pas, à propos de ma chronique, en m'écrivant à ladiseusedemots@gmail.com. ladiseusedemots, tout attaché, @gmail.com. À bientôt.
Les mots sont sans importance.
Les mots sont sans importance.
Les mots.